CV.
Sur la scène intermondiale.
Un CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Bien le bonjour. Oui, encore à Boulevard 101, j'adore ça. Vous faites suite dans votre programmation, vous nous suivez tout au long de la journée. C'est l'heure CV qui commence. Je m'appelle Pascal CV. Voilà pourquoi c'est l'heure CV. On est ensemble jusqu'à 11h. J'espère que votre début de journée s'est bien passé. Début de journée un peu plus apaisant, sous la pluie. Est-ce qu'il y en a qui ont des vieilles maisons avec un toit en tôle ou encore une vieille maison où on entend la pluie la nuit? Quand c'est réconfortant, il y a quelque chose de le fun à entendre la pluie dans les fenêtres pendant qu'on se réveille un peu puis ça nous rendort. C'était le scénario, hein? C'était vraiment le scénario courant des dernières heures. Et ça continue. Ouais, parce que c'est pluvieux pour toute la journée, disons-le comme ça. Puis trouvons-y du beau dans cette météo-là. 6 degrés à l'extérieur, faut s'habiller. Un petit manteau de printemps, ça va monter jusqu'à 10. Et comme je vous disais, c'est de la pluie intermittente ou de la brune partout sur la capitale nationale toute la journée. Oui, on aura un dégagement ce soir et cette nuit parce que demain, vendredi, on retrouve le soleil pour terminer la semaine avec 15 degrés. Voilà, chose dite, chose peut-être importante pour certains. Bienvenue dans votre émission, dans l'heure CV. Aujourd'hui, je suis bien contente de vous dire qu'on va recevoir, entre autres, le footballeur Kevin Mittal. Il va venir s'asseoir ici en studio puis jaser de son recrutement, jaser de sa vie, jaser de ses défis. Fierté quand même pour la ville de Québec. Puis bien sûr, il y a des dossiers qui ont fait jaser de Kevin Mittal au courant des dernières années, puis on va les aborder aussi. Mais j'ai bien hâte de faire cette rencontre-là d'un jeune qui en a repoussé des limites pour être maintenant recruté dans une ligue que vous connaissez, bien sûr. Bien, il va nous dire tout ça un peu plus tard à l'émission. J'ai trouvé une vieille archive aussi, fort intéressante, qu'on va écouter tout le monde ensemble dans quelques instants. Les vieilles filles. Il y en avait des vieilles filles. Est-ce que ce sont encore les mêmes? Là est la question. C'est quoi une vieille fille, de toute manière? C'est un peu péjoratif de dire ça. Mais c'est des femmes qui restaient seules et qui choisissaient ou pas, ou subissaient, le célibat passé un certain âge dans le temps. Et elles avaient commenté ce célibat-là, ces vieilles filles qu'on pointait du doigt auparavant. Je trouve ça très intéressant d'avoir mis la main sur cette archive-là. Mais on ne débuterait jamais une émission de l'heure CV sans le fameux proverbe, sinon vous allez me le dire dans les prochaines minutes. Celui d'aujourd'hui. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Reviens à tes valeurs foncières, reviens à ceux qui ont parsemé ta vie de beauté, pas nécessairement ceux qui ne l'ont pas fait, mais quand tu ne sais pas où tu t'en vas, regarde d'où tu viens. C'est le proverbe d'aujourd'hui. J'espère que ce début de journée s'est bien passé. Sam and the Terrible News, tout de suite dans vos oreilles, c'est le stéréo. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1. Au bureau, ou peu importe où vous êtes, tiens, dites-moi où vous êtes, 88-971-1021.
Courir avec Pascal CV.
C'est gris dehors, mais c'est gris aussi dans l'actualité. Je dis ça parce qu'on a des gros dossiers un peu dérangeants depuis quelques heures. Hier, là, c'était une des très, 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 très bonnes revues d'actualité depuis un bon bout. Des dossiers qui étaient percutants, des dossiers qui étaient déplorables, puis qui étaient essentiels à connaître. Aujourd'hui, celle qui attire particulièrement mon attention dans l'actualité, la nouvelle, c'est des milices armées extrémistes et anti-gouvernement qui sont dans la mire de la GRC au Québec. Vous avez bien entendu, là, il y a deux hauts gradés du corps policier là, de la GRC qui ont donné une entrevue et qui ont avoué qu'il y avait une lutte en ce moment à des groupes qui étaient devenus une priorité parce que c'était des groupes vraiment extrémistes, là, bien structurés, qui feraient partie d'un certain crime organisé, pas celui de Picturmel, mais quand même. Et là, la GRC enquête sur ces groupes québécois-là qui sont armés et qui souhaitent renverser les gouvernements. C'est pas rien, là. On dirait une histoire de saga qu'on pouvait lire là, dans des recueils communistes dans le temps. Mais il y a des groupes qui se sont inspirés justement de milices armées américaines que vous avez vues d'extrême droite qui sont dans le radar des policiers depuis quelques années. Mais là, le phénomène serait devenu beaucoup plus grand avec l'ingérence étrangère. La priorité de l'équipe, en fait, de la GRC, c'est une équipe qu'on dit intégrée sur la sécurité nationale. C'est maintenant ces regroupements-là. Et on a confirmé qu'ils sont assez organisés pour devoir mettre de l'énergie, puis pas à peu près, sur leur rassemblement. On ne veut pas inquiéter la population, par exemple, là, mais on insiste quand même sur le fait que c'est nécessaire de prendre ça au sérieux, qu'il n'est pas question de laisser ça passer parce qu'on n'en est pas à 2-3 individus isolés qui lancent des menaces inoffensives là, dans le fond de leur sous-sol. On parle vraiment d'organisation, des groupes organisés qui ont maintenant la capacité de se rassembler rapidement, d'avoir du matériel, de distribuer massivement leur propagande sur le web. Et c'est pas possible normalement de faire ça, mais avec tout ce qui est réseaux sociaux maintenant, ben, c'est la réalité. Et là, ils ont accès à tout le monde rapidement, à ceux qui sont déjà fans de ce regroupement. Et ils se sont radicalisés grâce à l'Internet. Puis c'est ça, on voyait pas ça auparavant. Maintenant, on est là-dedans et c'est une des principales inquiétudes pour la GRC. Avant, là, dans le temps, la principale inquiétude des policiers en matière de sécurité nationale au Québec, c'était tout ce qui était terrorisme religieux. Donc, rappelez-vous, là, dans les années 2000, surtout 2010, il y avait des tentatives de fuite de plusieurs jeunes pour aller rejoindre le groupe Daesh en Syrie. Maintenant, bien, c'est l'extrémisme politique ou l'idéologie des incels qui prend beaucoup de place. Ça, on en avait jasé, rappelez-vous, avec un psychologue puis un psychiatre, là. Mais c'est tous ces célibataires involontaires qui ont tenté de conquérir le cœur des femmes. Ça n'a pas fonctionné, se sont sentis diminués et ils sont devenus adeptes. Là, on en fait vraiment un raccourci, là, une explication très vulgarisée, mais ils sont devenus adeptes d'une sous-culture misogyne. Et bien, ça occupe activement les enquêteurs parce qu'il y en a qui tentent justement de s'en prendre à des femmes ou du moins qui sont très violents dans leurs propos et qu'on doit prendre ça au sérieux. C'était des phénomènes très inquiétants aux États-Unis, tout ce qui est incel et milice extrémisme. Maintenant, on les voit ici. Puis rappelez-vous, là, on a vu les Proud Boys aux États-Unis. C'est eux qui étaient impliqués, entre autres, dans l'assaut du Capitole en janvier 2021. Même chose pour les Oath Keepers, pardon, mon anglais. Mais ce sont des milices armées comme ça. Ils sont ouvertement hostile. Hein? On n'a pas peur de démontrer qu'on est violent, qu'on veut de la violence, puis qu'on veut que les choses changent, mais d'une drôle de manière, soit d'une manière criminelle, si jamais on passe aux actions. Ça me fait me questionner sur comment est-ce qu'on peut cultiver autant de colère et que ça en vienne à la fureur, que ça en vienne contre une cible là, précise, puis là, qu'on devienne un peu omnibulé par cette envie de destruction, cette envie de violence, cette envie de prendre la parole de façon, justement, agressive. À quel moment la colère devient de la haine? Je comprends, là, la colère, c'est plus qu'une réaction instinctive. Hein, quand ça, c'est accompagné de raisonnement puis de justification, ben, ça devient de la rage de l'opprimé. Là, la personne qui se sent opprimée puis qui va développer une rage comme ça, puis c'est pas juste une colère. Là. Puis je me suis mise à chercher hier là, dans plein de livres de psychologie que j'avais eus sur les émotions. Puis j'ai posé quelques questions à des psychiatres que je connais, puis j'aurais bien aimé les avoir en ondes. On fera cette conversation-là peut-être à un autre moment. Là, il n'était pas disponible aujourd'hui. Mais tu sais, le sentiment de tension qui s'accumule, peut-être que vous l'avez vécu à plus petite échelle envers quelqu'un qui, à tous les jours ou encore de façon récurrente, vous causait de la peine, vous causait une colère, puis c'est devenu justement une explosion d'énergie qui était incontrôlée, là, puis que ça s'est manifesté en haine. Mais la question, tu sais, est quand même intéressante à savoir. Est-ce que la colère a un instinct destructeur à la base ou ça devient destructeur quand on est confronté justement à plusieurs manifestations de colère et qui sont continuelles? Puis en plus, si une personne est en désaccord avec le gouvernement, en désaccord avec l'institution, s'alimente à chaque jour de ce qui lui déplaît, regarde à chaque jour des photos de politiciens, s'en va dans des forums, puis au départ, bien, ce n'était qu'une colère et ça devient justement une réaction d'hostilité, bien, c'est peut-être ça aussi. Donc, c'est une réaction émotionnelle, on dit, qui dure que quelques secondes, la colère, ou quelques minutes, mais sous ces minutes-là, ces secondes-là de réaction fâchée, se cache quand même une réaction émotionnelle plus importante et une tension sous-jacente qui, elle, pourrait persister si jamais on s'alimente dans notre colère. Donc, et là, ça pourrait mener à plus long terme, justement, une tension, un malaise ressenti, une envie de libération qu'on dit volcanique, là, tu sais, c'est de l'agressivité qui mène, là. Puis on veut soulager, là. Alors, la manière de soulager pour certains humains qui ne régulent pas bien leurs émotions, c'est de passer à d'autres émotions, soit la haine. Donc, on se sent opprimé, puis on devient haineux, on devient destructeur, on devient dans des envies là, où notre corps est difficilement contrôlable, puis on a besoin justement de passer à des actions violentes pour enlever tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que les gens aussi s'en vont faire du sport bien souvent, t'sais, des gens qui vont avoir beaucoup de tensions accumulées au courant de la journée, que ce soit au professionnel, au personnel. Quelqu'un qui te fait suer, t'es plus capable, tu vas aller courir. Il faut que tu changes ta tête de place, là, dans, justement, tes pensées, il faut que tu les changes, tu en vas courir, tu vas aller libérer un petit peu de cette colère-là. Ou encore au travail, t'as beaucoup de pression, puis ça vient qu'à t'opprimer. Mais bouger, le sport fait la même chose là, que quelqu'un qui va y aller plus de façon plus colérique, puis peut-être un peu inquiétante aussi pour l'entourage. Mais c'est intéressant, c'est juste que c'est perturbant aussi de voir, si j'y reviens à la nouvelle qui est dans l'actualité aujourd'hui, ce genre de truc-là abordé, des milices armées extrémistes dans la mire de la GRC au Québec parce qu'elles sont anti-gouvernement et que c'est très sauvage et inquiétant. Sinon, 3 arrestations à Lévis pour une tentative de meurtre dans Limoilou. On reste dans la thématique. C'est triste de voir ça, là. Honnêtement, il y en a beaucoup. Mais il y a 3 hommes qui ont été arrêtés en lien avec cette agression armée-là. Ce sera arrivé le 19 avril, quartier Limoilou. Et on a mis la main au collet de suspects hier. Donc, ils étaient dans le secteur de Saint-Rédempteur à Lévis. C'est une femme de 43 ans aussi qui est toujours recherchée, par exemple. Et l'agression sera à l'origine de ces arrestations qui ont eu lieu sur la rue Hamilton. Il y a un homme de 23 ans qui avait été blessé par arme blanche. Il avait été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures. Heureusement, ça ne mettait pas sa vie en danger. Mais là, tout ce qui est unité qui enquête sur le trafic de stupéfiants à la police de Québec avait ouvert, bien sûr, une investigation et ça menait à cette arrestation. Donc, les suspects sont âgés entre 20 et 22 ans pour tentative de meurtre, agression armée, vol qualifié, introduction par effraction, menace et complot. C'est ce qu'on lit dans le communiqué de presse de la police de Québec. Là, 2 d'entre eux devraient comparaître au palais de justice aujourd'hui. Puis un des suspects a été libéré parce qu'il va comparaître, lui, ultérieurement. Puis, comme je vous disais, bien, femme de 43 ans qui est encore recherchée par les forces de l'ordre en lien avec cette agression dans Limoilou. On n'a pas vraiment d'autres informations de la police pour l'instant. On refuse toutefois de faire un lien entre le crime organisé et ce que je viens de vous décrire, mais on confirme que des arrestations sont liées, par contre, au trafic de stupéfiants. Il y en a plein, sur plein de plans. Hein? Ça bouge beaucoup, malheureusement, dans la ville de Québec. Il y a une 20aine de personnes qui sont sans logis en ce moment. Il y a eu un gros feu dans Charlebourg. Ça s'est passé cette nuit, là, ben, quand même assez tôt, mais sur la rue des Visons. Autour de minuit 23, on a rapporté là, qu'on a appelé les pompiers pour des flammes au 7249 de la rue des Visons. Édifice de 12 logements et ça a forcé justement l'évacuation d'environ 25 personnes en pleine nuit. Ils ne pourront pas rentrer chez eux à court terme. Là. Les dommages sont très gros et ça a été causé autant par le feu que par l'eau. Donc voilà, mais au moins les pompiers ont travaillé très fort sur cet incendie qui était très important. Puis, on a sorti les gens. Il y a une 50aine de pompiers qui ont combattu le brasier. Personne n'a été blessé. C'est ça l'important. Mais voilà que la Croix-Rouge a dû prendre en charge plusieurs citoyens de la ville de Québec. Hausse de 3% des tarifs du RTC. Et ça, c'est à partir du 1er juillet. Rappelez-vous, alors, journée des déménagements, journée de la hausse au RTC. Et les usagers du RTC vont devoir mettre un peu plus la main dans leur poche là, pour prendre l'autobus. On sait que le RTC fait des déficits depuis plusieurs années, mais là, on demande aux usagers d'aller payer plus cher de 3%. Ça devrait augmenter. Tarif de cette société de transport qui est peinturée dans le coin depuis un bon bout, qui a décidé d'augmenter les tarifs de 3%. Et ça a été dévoilé, ça, dans une séance publique d'un conseil d'administration. Donc, les laissez-passer mensuels généraux là, pour étudiants et pour aînés de 65 ans et plus vont augmenter de 2,9%. Et le prix d'un billet général, ça va passer de 3,40 à 3,50. C'est le choix qu'on a fait. Le lot de 20 billets, ça, c'est d'habitude un peu plus économique, là, va coûter 63 au lieu de 61. Ça, c'est une hausse de 3,3%. Puis, vous pouvez aller voir, là, il y a vraiment une belle ventilation qui a été faite pour vous expliquer pourquoi vous allez payer plus cher, mais surtout combien vous allez payer. Après, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ça, c'est entre vos mains et vous pouvez faire aller vos doigt sur votre clavier au 88-971-101 ou encore sur Twitch parce que oui, je vous rappelle que sur Twitch, on est bien présent. Les caméras sont en studio durant toutes les émissions. Twitch.tv, tapez BLVD barre en bas, FM pour justement voir tout le monde en studio. Mais là, je suis seule et les auditeurs commencent à mettre pas mal de commentaires par rapport au RTC et je vous dirais que c'est totalement négatif, cette hausse de tarifs. Et beaucoup rapportent le fait que il y a eu des beaux gobelets de café achetés avec l'argent des contribuables pour les chauffeurs du RTC. Ils doivent être tannés. Honnêtement, ils doivent être tannés. Ça me fait penser, des fois, les chauffeurs du RTC aux intervenants en DPJ. Parce que oui, on tape sur l'institution. En passant ce matin, super entrevue de l'équipe de Rage Against le matin sur comment ça se passe depuis la commission Laurent, là, Régine Laurent, pour la direction et la protection de la jeunesse. Là. Mais... les employés doivent être tannés. Ils font tout ce qu'ils peuvent, travaillent corps et âme. Ils ont le goût de travailler des fois. Là, si, mettons, on revient au RTC, ils arrivent dans les garages et on leur dit « Ben non, vous ne pourrez pas faire votre trajet aujourd'hui. Retourne à la maison. » Ils doivent tellement être tannés qu'on en parle dans l'actualité, mais on n'a pas le choix. Mais après, est-ce que c'est les conducteurs? Est-ce qu'on doit s'en prendre à eux? Pas du tout, pas du tout. Même chose pour les intervenants en DPJ. Là. Je suis en contact chaque semaine avec certains et je vais vous dire une affaire. S'ils n'ont pas la broue dans le toupette, je me demande ce qu'ils ont. Ça va être... Le gun à mousse qu'on voit dans les piscines, là, des tout inclus, là, c'est ça qu'ils ont dans le toupette à chaque jour. Puis j'en connais plusieurs qui commencent à être très fatigués, puis on ne veut pas les perdre. Ils sont excellents dans leur métier. Et ils gardent le fort, puis pas à peu près, mais leur fort à eux commence à s'écrouler en termes d'énergie et de santé mentale. Alors on pense à tous ceux qui travaillent pour le bien de notre société aujourd'hui. Et on prend une courte pause, on revient. Vous êtes dans l'heure CV à Boulevard 102.1.
Et si tu donnais un sens à...
Je viens de parler à Kevin Mittal par texto. Il va venir. Il y a juste un petit retard. De toute manière, c'était prévu pour 10h40. Alors, on va attendre notre cher footballeur qui a été recruté, vous savez, repêchage de la LCF, ancien joueur du Rouge et Or. Oui, on a entendu parler de lui pour divers petites choses au courant, divers, si je viens d'accorder tout ça, mais diverses petites choses dans l'actualité. Par contre, je vous le disais hier, on a eu un doublé du Rouge et Or au premier tour du repêchage, et ça, on peut le mettre en lumière. C'est des gens qui ont travaillé très fort, des athlètes qui ont travaillé très fort pour être repêchés. C'est leur rêve d'une vie pour certains. Alors, Kevin Mittal sera en studio. On a plein de choses à lui demander, puis plein de choses à jaser avec lui. Je sais que Reg Laplanche, je sais que Jeff Fortin sera aussi à l'écoute. Donc, il va être ici en studio, va se déplacer. Vous allez pouvoir le voir sur Twitch. Je vous parlais d'un sujet d'archives qui m'a fait beaucoup rire dans les dernières heures. Je suis tombée sur... est-ce une entrevue? Oui, dois-je dire. Sous quelle forme? Peut-être un peu curieuse. On retourne en 1964. Il y en a sûrement qui étaient en vie en 1964, parmi les auditeurs de Boulevard 101 présentement à l'écoute. Et peut-être que ça va vous rappeler, je ne sais pas, certains souvenirs. Chose certaine, on parlait du célibat d'une toute autre manière. Là, il n'y avait pas de Tinder dans ce temps-là. Tu finissais pas une date puis tu recommençais à aller magasiner. Là, même si tu as eu une super soirée sur une application où on te propose des photos puis deux, trois questions ou encore des vocaux pour savoir si la personne pourrait te plaire, c'était bien plus humain et chaleureux que ça. Cependant, il y a certaines personnes qui choisissaient de rester célibataires et qui étaient pointé du doigt. C'était pas bien vu. C'était vraiment pas bien vu d'être célibataire dans ces années-là, surtout pas passé un certain âge. Mais il y a des femmes qui choisissaient de vivre seules. Certaines le subissaient, mais certaines le choisissaient. Et elles évoquaient les avantages d'être libres, d'être autonomes. Vous savez, dans le temps, il y avait quand même, puis pas si loin de 1964, un grand livre, une grande Bible là, sur comment bien traiter son mari. Et puis là-dedans, je l'ai déjà lu en ondes, on disait entre autres que lorsque le mari arrive, il faut que les planchers soient cirés, il faut que la maison soit propre, le souper soit prêt et qu'elle soit bien mise. Donc une bonne douche, de beaux vêtements, les cheveux faits. Lui arrive dans le salon, on y enlève les pantoufles, on lui sert un verre, on pose pas de questions, on attend que lui mène la discussion. Ça se peut qu'il y a des femmes pour qui ça tentait de rester seule, là, on s'entend. Et je suis retombée sur une archive où on questionne ces femmes qui sont célibataires en 1964. On écoute ce qu'elles ont à dire.
Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation populaire « vieille fille » ?
Oh bien, monsieur, je crois que les vieilles filles n'existent plus maintenant. Ce sont des célibataires que l'on dit. Et la célibataire, être célibataire, c'est une vocation.
Est-ce que vous éprouvez certaines difficultés à vivre seule?
Dans le moment, je ne crois pas, mais il y a sûrement une adaptation à faire. Il y a sûrement des moments difficiles comme dans toutes les autres vocations, mais on finit par s'y faire.
À 20 ans, on n'a pas décidé d'être célibataire à 20 ans. À 30 ans, là, quand ça fait quelques années qu'on travaille, qu'on aime son travail, on commence à y penser sérieusement. Est-ce qu'on devrait rester célibataire? Et je vous jure qu'à 40 ans, on reste célibataire de choix, de goût.
Et la situation de la célibataire sur le plan social?
Oh, parlez-moi pas du plan social pour la pauvre célibataire. On n'est pas tellement accepté. Je ne sais pas. Enfin, on a un certain groupe d'amis, de confrères de travail, de compagnes de travail, et en dehors de ça, c'est assez difficile d'accepter la célibataire dans des cercles où il n'y a que des couples, pour une raison que j'ignore, ou que je m'explique difficilement. Est-ce que la femme a peur qu'on regarde son mari un peu de travers? Si le mari veut regarder une femme célibataire ou mariée, il ne va pas le faire devant sa femme quand même, il n'est pas fou.
Est-ce que vous portez une affection assez spéciale à votre chien?
Oui, je trouve que Gigi est très, très gentil et c'est une compagne agréable.
Vous dites une compagne. Pourquoi est-ce que vous vous sentez assez seule parfois?
Oh non, pas le fait qu'on est femme de carrière, si on peut appeler ça comme ça, qu'on se sent seule, mais tout de même, c'est de la vie dans un appartement.
Est-ce que la solitude est une réalité pour vous? Avez-vous éprouvé ça?
Non, je crois pas, parce que le fait d'être célibataire, ça nous apporte encore beaucoup plus d'amis que si on était marié, quoi. Les gens se disent « Oh, cette pauvre fille, elle est seule. » Alors, tous les gens sont gentils.
Mais est-ce que c'est un état de vie en soi qui est acceptable?
Oh oui, il faut pas du tout penser que la jeune fille, quoi, qui est pas mariée, qui arrive à 25 ans, que c'est une catastrophe. Pas du tout. On peut très bien se débrouiller, avoir un appartement sympathique, avoir des amis et faire une vie très normal et très agréable.
Fallait se justifier. J'adore ça, ces archives-là. C'est sûr que les temps changent, les mœurs changent. On était très, un homme, une femme, une famille, rapidement dans le temps. On a une maison, puis c'était une histoire de procréation, puis de partenariat qui n'était pas toujours superbe. On était en 1964 avec tout ce que vous venez d'entendre. Oui, on est un peu dans les clichés, mais c'est le fun de voir comment ça a changé. Oui, ça fait plusieurs années, mais malgré tout, ça reste pas si loin de nous. Et je retombais sur un article assez récent sur tomber en amour avec le célibat. C'est encore une question de société. Bien sûr, c'est beaucoup mieux perçu. Maintenant, on se pose pas de questions si quelqu'un est célibataire. Ben, on peut lui demander pour quand tu vas avoir un petit chum, une petite blonde ou « Hey, toi, tu as choisi, passé un certain âge, d'être seul, tu es mieux. Oui, j'élève mes enfants seuls. Ma séparation, ben, elle est faite et je me sens bien habiter dans mes affaires puis avoir des petits chums ou des petites blondes une fois de temps en temps. » Mais ça reste un enjeu très modeste. Et si la tendance se poursuit, quand je regarde les statistiques, si on regarde aux chiffres qui ont été mis à jour, la dernière fois, c'est en 2022, par exemple, on estime qu'il y a, attention là, 19,8% des hommes et 15% des femmes de 20 à 49 ans qui ne choisissent pas, en fait, le concubinage comme étant la priorité dans leur vie et une envie. Alors, on est vraiment dans une montée, une proportion qui monte d'hommes et de femmes qui préfèrent et choisissent littéralement le célibat. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous le choisissez par, justement, choix? Hein? Choisissez par choix ou vous le subissez? 418-971-102. Je veux de l'honnêteté, là. Je veux des gens qui disent « Ouais, moi, je ne l'ai pas choisi. Je le subis en ce moment. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir. » Ou je veux des gens qui disent « Ouais, puis j'ai bien de la misère, justement. » Même quand quelqu'un me plaît à faire un choix conscient de me mettre en couple. À vos claviers, 418-971-102 ou encore sur Twitch. Est-ce que vous êtes célibataire? Et si vous l'êtes, vous le subissez ou vous le choisissez? Les étoiles filantes des cow-boys fringants. Faire du bien, ça, en cette journée pluvieuse. Je vous rappelle qu'au menu météo aujourd'hui, c'est 6 degrés comme actuellement et comme maximum, c'est 10. C'est de la pluie intermittente ou de la bruine pour toute la journée. C'est le temps de faire vos commissions, d'écouter un film tranquille ce soir. On sortira demain quand il y aura du soleil.
Les étoiles filantes.
RCV avec Pascal CV.
OK, vous m'avez tellement alimenté sur la question. Merci beaucoup pour vos textos, vos commentaires, vos discussions. Je demandais, suite à l'écoute des vieilles filles de 1969, ouais, j'ai retrouvé de vieilles archives où des femmes parlent de célibat. Et c'était les précurseurs là, dans leur domaine, soit de choisir le célibat, pas nécessairement le subir. C'était vraiment des femmes qui le choisissaient. Puis on voyait peu ça, sinon jamais ça là, auparavant. Puis c'était encore pointé du doigt. Là, mais ils se font poser des questions extrêmement clichés, qui sont, somme toute, assez comiques en 2024, mais qui restent un enjeu intéressant. Quel enjeu? Le célibat. Est-ce que vous le choisissez ou vous le subissez? C'est la question que je vous posais. Puis il y a eu beaucoup de commentaires. Entre autres, des gens qui disent « Bien, moi, je le subis. » Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine au quotidien. Je suis prête à m'ouvrir à quelqu'un, je suis prête à partager avec quelqu'un, mais j'ai toujours l'impression qu'une fois où ça devient sérieux, la personne part comme si on avait tous peur de s'engager. Ah, mais ça, l'engagement dans l'ère moderne, c'est quelque chose de très important. Et j'en avais parlé avec le psychologue Pistorio, Marc Pistorio, dans un des épisodes. Je pense que c'est le premier épisode de Sainte-Nitouche. Je voulais aller reprendre sur le site de BLVD ou encore sur Spotify. Là. L'engagement. Ouais, c'est une denrée rare en 2024. Mais bon, vos commentaires. On dit... C'est plein de clichés, cette vidéo-là, effectivement. Après ça, quelqu'un qui dit « Moi, ça va faire 4 ans que je suis célibataire à la fin juin et c'était mon choix. Maintenant, je suis bien. Je dois rien à personne. Et avant de me rembarquer, je vais mettre la barre haute cette fois-ci. Je ne veux pas me prononcer, mais j'ai l'impression qu'il y a de la fragilité, là, peut-être des déceptions qui se sont passées avec un commentaire comme ça, très, très authentique et vulnérable. Merci. Mais la phrase « Je ne dois rien à personne » va revenir souvent, vous allez voir. J'aime être en couple, mais je dois avouer que parfois être seule et célibataire me manque. Ah ouais, OK, pourquoi? Continuez de discuter. Quelqu'un qui dit, comme Max, notre collègue, notre cher Max, je subis d'être une célibataire endurcie, mais j'en suis venue à la conclusion que je serai probablement plus jamais en couple. À ce point-là, OK. Là, continuez là, de donner des informations. En passant, si vous voulez vous joindre à tout ça, là, c'est sur Twitch en majorité que ça se passe. Quelqu'un qui dit, je suis bien, moi, célibataire, je dois rien à personne, j'ai pas de compte à rendre. La phrase qui revient encore. Quelqu'un qui dit « En couple, il faut être comme une équipe. » Moi, ça fait 30 ans que ça fonctionne dans mon cas. Quelqu'un qui dit « Je vois ça comme un gars qui... » Ah, parce que les comptes à rendre, là, la personne a continué d'en jaser. Elle dit « Moi, je vois ça, un compte à rendre, comme un gars qui ne va pas aller avec ses chums parce que sa blonde ne veut pas. » Et à ça, je répondais pendant la pause. Ben premièrement, le gars, s'il souhaite aller avec ses amis, c'est son choix. Et si ça peut causer des conflits dans le couple, peut-être que c'est des personnes qui doivent revoir un peu où ils en sont. Mais des comptes à rendre. Cette phrase qui revient souvent, est-ce que c'est ça que vous ressentez lorsque vous êtes en couple? C'est pour ça que le célibat vous attire autant? De dire à quelle heure on entre, viens-tu souper, quelles sont les activités qu'on va faire en fin de semaine? Ça vous dérange beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un grand sentiment... de manque de liberté? Est-ce qu'on est coercitif en couple? Est-ce qu'on on fait ce qu'on ne souhaite pas? Est-ce qu'on s'affirme assez? Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dedans. Quelqu'un qui dit « Subir, pour moi, le célibat, c'est un gros mot, mais je dirais plutôt qu'on apprend à vivre avec les beaux côtés du célibat, tout en restant ouvert à une possible union. » Quelqu'un qui dit « Ah, on n'est tout simplement pas avec la bonne personne si jamais on sent qu'on a des comptes à rendre. Moi, mon chum va passer des soirées avec des amis et sans moi, puis je fais autre chose des fois. Je fais quelque chose sans lui aussi. » Quelqu'un qui dit « Faut éliminer les attentes, mon avis, sinon c'est toujours une situation de manque en étant célibataire. » Quelqu'un qui dit « Moi, je suis célibataire par peur d'avoir mal. » Ah, ça, c'est très honnête. Quelqu'un qui dit « Depuis ma séparation de la mère de mes enfants en 2011, j'ai eu une relation de 2017 à 2019. Finalement, célibataire par choix, mais aussi par manque de compatibilité de mes rencontres fortuites. Mais je suis ouvert à me faire briser le cœur à nouveau. » Quelqu'un qui persiste et signe, j'aime ça. Mais protégez-vous, mais oui, restez ouvert. Quelqu'un qui dit « Ça fait 22 ans que je suis en couple, mais si je reviens célibataire, je vais le rester quelques temps. » Quelqu'un qui dit « Ce que je trouve le plus difficile dans le fait de subir le célibat, c'est le manque d'affection parfois, puis ben, bien sûr de rapprochement. » Quelqu'un qui dit « Ça va faire 5 ans que je suis à nouveau en couple et lorsque j'ai rencontré ma blonde, j'ai spécifié que mon travail et mes engagements sociaux passaient avant tout. Il faut croire que ça lui a pas fait peur. » Ouais, ben vous allez trouver chaussures à votre pied si vous êtes honnête, mais c'est dur des fois d'être honnête, puis ça se peut que ça soit compatible à fond jusqu'à temps que dans vos priorités, ce soit... tout autre chose que le couple, puis que ça, la personne se sente un peu délaissée là-dedans. quelqu'un qui dit par texto 88-971-1021, le célibat, c'est beaucoup moins de troubles. Donc, là, ce que je comprends, c'est que cette personne choisit le célibat. Quelqu'un qui dit le manque d'affection, c'est ça qui est le plus difficile. C'est là où on subit le célibat. Et c'est aussi difficile, justement, pour les rapprochements sexuels quand tu es célibataire. Alors, c'est une des choses que je subis. Quelqu'un qui dit « Salut, c'est V. J'ai 28 ans, bientôt 29, et j'ai jamais été en couple, pas par choix. » mais par choix en même temps. Mes études m'ont fait entrer jeune dans un domaine majoritairement d'hommes. Il y a peu d'occasions de me mettre en couple, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que je suis seule que ça m'est égal. Peut-être qu'un jour, je serai en couple. Qui sait? Hey, ça, c'est intéressant. Merci d'avoir écrit. Je ne veux pas dire ton prénom. Je ne sais pas si tu voulais rester anonyme. Quelqu'un d'autre qui dit, moi, ça fait 20 ans que je suis célibataire puis c'est pas par choix. Oh non, puis c'est par choix. Je vois tous les couples autour de moi qui se déchirent, s'obstinent, se chicanent, puis ça me donne pas le goût. Je suis bien seule dans mes petites affaires, mais ça n'empêche pas une petite rencontre de temps en temps. Merci pour votre ouverture. C'est vraiment plaisant de vous lire. Continuez, ça rentre en pas à peu près. Martin qui dit, pour être en couple depuis 19 ans, le couple doit évoluer et devenir moins fusionnel, mais toujours très, très tissé serré. C'est important de se prendre du temps pour soi, même en couple. Hey, continuez d'écrire. On va vous lire assurément toute l'équipe de Marceau Midi. Peut-être on va revenir sur ce sujet-là. Ça a fait beaucoup réagir. En studio, il est arrivé Kevin Mittal. Alors, on s'en va écouter Fortune Cookie Club, It's Sal, puis on revient avec lui. Il va nous rester un bon 12 minutes pour aborder plein de sujets avec cette nouvelle recrue. Ouais, vous savez c'est qui? Ben on va en parler dans quelques instants. Restez là à leur CV.
Pascal CV.
On a de la grande visite en studio. J'ai l'impression que ça s'est couché tard, honnêtement, dans les derniers jours. C'est normal, une nouvelle comme celle-là, il faut la fêter. C'est un accomplissement pour un joueur de football de passer du rouge et or et d'être recruté finalement par la Ligue canadienne de football, la LCF. Et il est en studio, il est arrivé comme ça, là, rapidement. On faisait notre segment sur les couples, il s'est assis et il est prêt pour l'entrevue. Je sais pas, t'as dormi combien de temps? Salut, Kevin Mittal.
Salut.
Ça va?
L'invitation, ça va bien.
T'as
on manque de sommeil
ouais.
depuis les derniers jours, mais ça va.
C'est pour les bonnes raisons.
C'est pour les bonnes raisons. Les célébrations sont faites. Maintenant, on est plus côté business, puis on se prépare à partir à Toronto.
Là. OK, là, on vous avait dit, vous allez prendre le 48 heures qu'il vous faut pour fêter.
C'est ça.
Puis après ça, on redevient...
On redevient des athlètes. On pack nos boîtes parce qu'il faut vider tous nos appartements. Puis lundi, on est parti à Toronto. Là.
Mais ça, c'est rapide. Parce que là, on va le dire, là, dans les dernières heures, tu étais dans un rassemblement avec tes proches, avec tes parents qui étaient là, des amis, parce que tu attendais le fameux coup de téléphone, à savoir s'il y a une équipe qui voulait de toi, hein, qui voulait que tu joignes les rangs de justement leur concession pour que justement tu puisses amener tout ton talent de footballeur auprès de cette ligue-là canadienne de football. Et on t'a choisi les Argonauts de Toronto qui ont voulu de toi en tant qu'ex-receveur du Rouge et Or. Tu as été le 5e choix du repêchage de cette ligue-là. Comment tu t'es senti quand le téléphone a sonné?
C'est ça, c'est comme un rêve de petit gars. Là. On a commencé à jouer au foot, c'est qu'est-ce qu'on voulait, c'est jouer pro. Puis juste le fait de pouvoir dire on va être payé à attraper des ballons, c'est notre rêve, c'est notre job de rêve. Fait que finalement, après 17 ans de carrière de foot, on s'en va là. Puis,
t'attendais-tu à ce que ça sonne?
On s'attendait que ça sonne, on s'attendait même que ça sonne un petit peu plus tôt. Mais je suis content, là. C'est une belle organisation, c'est une organisation gagnante. Puis le système offensif, il est très bon pour moi. Fait que je suis excité d'aller là la semaine prochaine.
Là, tu as 25 ans, tu es jeune. Là.
Ouais.
C'est un gros branle-bas de combat. Tu pars de Québec, tu dis on fait nos boîtes. T'avais-tu commencé? T'étais-tu mis dans un minding de gagnant?
Oui, mais on était prêts. On savait que peu importe, le camp des recrues, c'est le 8 mai. Peu importe où qu'on allait se retrouver. Fait que c'est sûr qu'on était prêt à partir, mais c'est sûr que là, vu qu'on est dedans, là, c'est vrai, puis ça va vite. Là,
là tu dis on, parce que tu as des comparses du Rouge et Or aussi qui ont été recrutés.
Ouais, exact.
Comment tu te sens là-dedans?
On se sent bien. Tous les gars qui étaient éligibles au repêchage de cette année, tout le monde s'est fait repêcher. Fait que c'est le fun pour tout le monde. C'est pas comme si qu'il y en avait juste un sur cinq gars, puis que c'est comme la soirée comme un peu bof pour. Quelques gars, mais là, on a tout fait ensemble, puis on est tous contents.
Puis dis-moi, Est-ce que le Rouge et Or, c'est tant l'élite que ça à travers les dernières années? Parce que longtemps, vous avez été dominant, puis même avant bien que toi, tu joignes le Rouge et Or, ça a été une équipe extrêmement dominante. À travers les années, les Carabins ont dit « on n'a pas dit notre dernier mot », puis sont arrivés très fort dans la Ligue. Peut-être les cinq dernières années, il y a comme eu un vent de compétition qui s'est vraiment installé. Puis là, on voit quand même que les joueurs qui étaient éligibles au repêchage du Rouge et Or sont recrutés, sont appelés. Est-ce que cette dynastie-là continue, perdure? Est-ce que c'est travaillé au sein des rangs?
Ça va perdurer, puis pour toujours. Université Laval, Rouge et Or football, c'est 11 Coupes Vanier sur les, je pense, 14 dernières années. Fait que dans ton parcours, quand tu passes au Rouge et Or de l'Université Laval, tu es quasiment assuré de repartir un jour avec une bague puis un championnat de la Coupe Vanier. Fait que c'est incroyable. Puis pour nous, notre préparation, qu'on se prépare pendant depuis, moi, ça fait 3 ans que je suis à Québec maintenant, mais c'est pas un hasard qu'il y ait autant de gars du Rouge et Or qui font le saut chez les pros. C'est notre préparation de physique, préparation de vidéo, préparation de match qui nous prépare tout pendant notre cheminement à Laval. Puis qui nous... C'est pour ça qu'on arrive autant près. Puis c'est pour ça, je pense, les scouts et toutes les équipes professionnelles adorent les joueurs qui sortent du Rouge et Or parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Un produit pas fini, mais très peaufiné.
Est-ce que c'est dur de sortir des rangs puis de devenir un joueur étoile qui se fait remarquer? Parce que à travers les dernières années, moi, j'ai beaucoup suivi le football puis autant l'universitaire. Puis ce que je voyais, c'est des joueurs qui allaient choisir des équipes moins fortes, un peu comme un Laurent Duvernay-Tardy à travers les dernières années, qui s'est dit « moi, j'allais dans une université pour étudier ». Mais en même temps, il a brillé dans son équipe. Ouais. C'était plus facile de voir l'apport qu'il donnait à une équipe. Puis il y a plusieurs gars qui choisissent des équipes moins fortes pour avoir la chance de jouer dès la première année ou la deuxième année où il a été recruté. Est-ce que ça, c'est difficile de devenir un joueur étoile ou de briller quand les autres aussi brillent beaucoup?
Oui, bien, ça dépend de ta personnalité, quel genre de personne que tu es. Est-ce que tu veux rentrer dans une équipe de potentiellement gagner, mais pas avoir un impact tout de suite sur le terrain? Ou tu vas avoir un impact, mais pas nécessairement gagner durant ton parcours? Moi, j'ai décidé l'option que je voulais gagner. Quand j'ai fait le saut, moi, je suis allé dans la NCAA. Je suis revenu ici. Il y a eu le COVID, on n'a pas joué. Mais ma première saison, je crois que c'est en 2021. Puis au début, j'étais pas partant. J'étais derrière Mathieu Robitaille. Puis en milieu de saison, vers la fin de saison, là, j'ai eu mon poste de partant. Mais ça te fait travailler plus fort. Puis je pense que c'est ce qui nous rend meilleurs de tout le temps. Pas nécessairement durant les matchs de jouer contre les meilleurs, mais de pratiquer à tous les jours puis s'entraîner avec les meilleurs à chaque jour, ça te pousse puis ça te motive à vouloir être le meilleur.
Toi, ça te fait monter justement.
Je pense que ça te fait monter. Il y en a peut-être que ça écrase, mais je pense que moi, ça m'a fait monter.
Ça t'a motivé. C'est intéressant cette vision-là. Kevin, je peux pas passer à côté du fait que tu as fait l'actualité, pas juste pour le football.
Ouais.
Ça a dû être difficile. Bon, il faut savoir que tu as été originellement accusé de voies de fait armées, de voies de fait avec lésions, puis d'avoir proféré des menaces contre un autre joueur pour un incident qui s'est produit le 10 décembre 2021. Donc, ça fait plusieurs années. Finalement, ben, c'est terminé avec l'absolution inconditionnelle.
Ouais.
Comment tu as vécu ça?
C'est une situation qui date de 2021. On était en train de la gérer, ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Je pense que ça faisait 2 étés qu'on passait en cours, qu'on savait qu'est-ce qui s'en venait. Comment j'ai vécu ça? C'est sorti comme sur l'effet d'une bombe parce qu'on pensait que ça allait sortir vraiment la date du 7 septembre après qu'on passe en cours. Mais il y a une journaliste qui l'a publié avant. Fait que ça nous a surpris, mais sinon, on l'a quand même bien pris. C'est sûr, ça l'a amené comme un vent de négativité autour de moi.
Que tu comprends ou que tu comprends pas?
Que je comprends. Okay. Je pense que les gens n'ont pas nécessairement les détails. Puis là, il y avait les spéculations de tout le monde, que c'était quelqu'un du Rouge et Or, que c'était un joueur, que c'était ci, c'était ça. Justement, dans mes entrevues de la LCF avec les équipes, c'est comme des entrevues pour un emploi. Puis,
ça t'a été abordé, ça?
Ben oui, dans toutes les entrevues, ça a été abordé, c'est sûr. C'est quelque chose qu'il fallait que j'explique en détail. Ils voulaient savoir c'était quoi toutes les accusations, pourquoi.
T'étais-tu avec un avocat à ce moment-là quand tu
Pour les entrevues,
ouais.
Non. Ça, avec les équipes, c'est vraiment fermé. C'est comme une entrevue pour un job. Puis on leur a tout expliqué, on comprend la situation, parce que l'arme blanche, ça a sorti. Des fois, c'était un couteau, des fois, c'était un gun, des fois, on savait pas c'était quoi.
Non, mais c'est une bouteille.
C'était une bouteille qui a été lancée. Il y en a qui s'était lancée, il y en a qui s'était frappée avec une bouteille qui a été lancée. Mais je suis content que ça soit réglé, c'est derrière nous. Puis
T'as-tu reparlé à la victime dans ce cas-ci?
Non, quand on est passé en cours le 7 septembre, il voulait pas parler devant. Je pense qu'il pensait pas que ça allait sortir autant fort devant dans les médias. Fait que je respecte ça. Puis c'est un conflit, comme que je dis, parce qu'il y a plusieurs places qui ont essayé de dire que le rouge et or a essayé de camoufler l'affaire, puis qu'il aurait dû gérer ça, puis le sortir dès qu'ils l'ont su en 2021. Mais je pense que l'autre personne, ça fait, je pense, un 6-8 ans qu'il n'est plus dans l'OGA. C'est un ancien OGA. C'est un citoyen de la ville de Québec. Fait que moi, j'aime juste dire puis le rappeler que l'OGA n'a pas rapport là-dedans. Mm. Puis c'est une chicane de deux citoyens de la ville de Québec qui ont réglé ça à la cour comme il se doit. Puis je pense pas que l'OGA avait tant à intervenir là-dedans.
Est-ce que tu as eu peur que ça mette fin à ta carrière, ça?
Non, pas peur que ça mette fin à ma carrière. Il y a eu des doutes, peut-être, mettre fin à ma carrière au Rouge et Or. Mais après discussion, on a décidé qu'on allait passer à d'autres choses, puis que ça faisait deux ans, puis que je commençais à payer pour.
T'avais fait ce qu'il fallait. Là, on va aller dans le positif. Receveur de passe, tu t'en vas chez les Argonauts. Est-ce que tu connais déjà ta position? Est-ce que tu es prêt à changer de position si on te le demande aussi? Après des années d'entraînement à un endroit précis sur le terrain.
Oui, mais tu vois, la position que tout le monde me demande, je l'ai jouée au secondaire.
Le monde te demande, qu'est-ce que tu veux dire? Que les équipes...
Les équipes ou que les partisans du Rouge et Or me demandent ou l'interrogation sur mon poids. Est-ce que je peux jouer à la même position que j'ai joué au Rouge et Or? J'ai parlé au coach de receveur hier des Argonauts, puis il me voit encore à receveur, il me voit pas.
C'est soulageant, ça?
Mais je savais, c'est un questionnement qui revient, puis qui revient, mais toutes mes... Pourquoi je suis rendu là, c'est où que j'ai joué à cette position-là? Fait que je sais pas pourquoi on le remet en question, mais c'est correct. Mais on m'a dit pour l'instant que je restais à un slot, puis que...
Un slot?
Un slot qui est un receveur avec... un petit élan.
Okay.
Je vais rester là pour l'instant, puis on va voir dans les prochaines semaines si peut-être que je vais changer de position.
Puis t'es ouvert à ça.
Ouais, tant que je peux jouer au football, ça va bien.
On a une question sur le Twitch, quelqu'un qui dit les salaires sont moins élevés, tu sais, dans la LCF, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, toi, pour faire cette transition-là, puis de te concentrer, parce que ça demande beaucoup de temps.
Ouais.
Mais des fois, le salaire ne va pas nécessairement avec les efforts puis le temps que tu vas mettre.
Ben, je pense, oui, c'est un emploi, mais la première des choses, c'est une passion. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 6 ans maintenant. Le salaire, c'est sûr que le contrat recrue, il est tel que tel. On ne peut pas tant y toucher. On parle quand même de 71, 72, plus bonus pour 6 mois de travail parce que l'autre 6 mois dans la Ligue canadienne, on peut revenir à la maison, on peut revenir. Moi, je vais retourner aux études.
En quoi, Kevin?
En investissement immobilier.
OK.
Donc, c'est vraiment pour un 6 mois de travail. Fait que moi, je trouve que c'est quand même bien pour un contrat recrue, puis après ça, ça peut monter après ta deuxième année.
Je te vois rire comme un enfant. Moi, je veux juste aller jouer, il n'y a pas de problème.
C'est ça.
Le temps file, mais la différence entre la NFL, la LCF, bon, on la connaît quand même, mais il y a des gens qui sont à l'écoute puis qui pourraient se questionner à savoir, aurais-tu pu être recruté dans la NFL? C'est-tu quelque chose que tu vises malgré tout avec ce recrutement-là dans la Ligue canadienne? Ça arrête-tu ta carrière après? T'sais, tellement de questions face à ces deux ligues-là.
Non. Oui, j'aurais pu. Mais
aller dans la NFL.
Mais il faut comprendre, notre ligue ici, le U Sport, c'est un gros step déjà, la Ligue canadienne de football. Donc la NFL, c'est encore une plus grosse marche. Mon but, c'est quand même d'aller là. On va passer par la Ligue canadienne de football. Je pense que je peux faire de belles choses dans cette ligue-là. Puis qui sait, peut-être qu'après ma première, deuxième saison, je vais avoir plusieurs invitations, puis
peut-être... Ils vont scruter, tu penses?
Ouais. Dans le fond, il y a plus de... Il y a comme 30 à 40 joueurs qui passent de la LCF à la NFL à chaque année. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant, puis c'est quelque chose qu'on vise avec mon agent.
As-tu le droit de dire ton équipe de rêve dans la NFL, ce serait laquelle si tu avais à jouer, ou tu veux pas faire ça d'un coup?
Je veux pas faire ça.
Ça soit repris.
C'est ça, je veux pas faire ça. Peu importe, c'est d'avoir la chance de jouer au foot professionnel.
Puis de triper.
Ouais.
OK. Hey, merci beaucoup d'être passé en studio pour parler de ce bel accomplissement-là. Kevin Mittal, qui était là, ancien joueur, vedette du Rouge et Or, qui finalement s'est fait recruter dans la Ligue canadienne de football, qui va jouer, de ce qu'on sait peut-être, comme receveur Vert dans la prochaine saison. Là, c'est quoi les prochaines étapes? Tu as dit, on fait nos boîtes puis on s'en va. C'est dans deux jours que tu t'en vas du côté des Argonauts?
On fait des boîtes aujourd'hui et demain. Samedi, je viens de la FC de Montréal, donc je retourne chez mes parents samedi. Puis dimanche, on est à l'aéroport et on part lundi. Ça commence à Toronto.
L'entraînement?
Les tests physiques. Le camp commence le 8 mai, il faut qu'on soit prêt.
Qu'on soit prêt, qu'on s'entraîne à chaque jour. Moi, j'ai eu des petites images exclusives de ta mère qui était tout émue. Tes parents te supportent beaucoup là-dedans.
Oui, ils ont toujours été là. Ils n'ont pas manqué de match encore en 17 ans. Là, ils vont peut-être en manquer, c'est à Toronto, mais c'est pas arrivé encore. Puis, ils m'ont jamais lâché encore.
Est-ce qu'on peut garder ton numéro puis te reparler dans les prochains mois?
Mais oui.
OK, super. Merci beaucoup d'être passé. Kevin Mittal vient de finir l'émission avec nous dans leur CV. Je vous souhaite un excellent jeudi. 2 mai, déjà. Ouais, ben toi, 2 mai, ça sonne encore plus intense dans ta tête parce que ça t'approche de ce que tu vas devoir faire. On se retrouve dans un instant dans Marceau le midi parce que Yannick s'en vient en studio. Il y a également Tom Gauthier, puis on vous accompagne jusqu'à 14 h. Salut, Kevin.
Salut.
Salut tout le monde. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été là.